Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus de gens sont intolérants. Moi-même, je dois bien avouer que je suis intolérant. Je suis intolérant au lactose. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde semble devenu intolérant à quelque chose. Au gluten, à la caséine, au sucre, à la vanille, au café. Et cette intolérance fait que quelque chose qui nous semblait agréable, qui était une baguette de pain, par exemple, qui était un truc agréable, ça devient une sorte de menace qui apparaît dans votre assiette, dans votre alimentation, quelque part. Et cette baguette, c'est plus une baguette, ça devient le support d'une substance qui s'appelle gluten. Elle contient une sorte d'autre qui est devenue inassimilable. Et cette intolérance alimentaire, cette généralisation de la perception qu'on a de nos intolérances alimentaires, c'est comme un surgissement, c'est le surgissement dans les assiettes d'un autre qui serait devenu tout d'un coup non métabolisable. On ne pourrait plus en faire quelque chose avec son corps, on ne pourrait plus l'intégrer. Et cette montée des intolérances alimentaires s'inscrit évidemment dans un cadre général où monte l'intolérance, où montent les intolérances. Que ce soit d'un point de vue religieux, social, politique, cette généralisation des intolérances alimentaires, c'est finalement le signe intime de notre tolérance devenue très très faible à la tolérance à l'autre. C'est comme si on avait développé une sorte d'hypersensibilité à l'autre, comme si on avait développé une hyperconscience de l'idée de l'autre. Et ces allergies, elles sont intéressantes parce qu'elles sont reliées finalement à quelque chose qu'on a envie d'arborer. Les gens sont assez fiers de dire qu'ils sont intolérants au gluten, qu'ils sont intolérants à telle ou telle chose. Et ça devient finalement des signes distinctifs. C'est-à-dire que ça, on voit que, on y reviendra plus tard, mais qu'il y a un lien entre ce rapport à l'autre et la question de l'identité. Ça devient des signes identitaires. Donc on a laissé s'installer dans la culture, de manière générale, une grande place pour l'intolérance. L'intolérance, elle s'est désinhibée, ou comme disent les gens de la droite politique, elle s'est décomplexée. Pour dire les pires choses, on décomplexe aujourd'hui. Donc je voudrais commencer cette conférence par quelques questions. Pourquoi est-ce qu'on est intolérant à l'autre? C'est des grosses questions, c'est des questions qui semblent, qu'il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Mais pourquoi est-ce qu'on est intolérant à l'autre? Pourquoi est-ce que les relations humaines, telles qu'on les envisage de manière générale, ne marchent pas ou très très mal? J'ai l'impression que c'est toujours très difficile, les relations humaines. Pourquoi, aux yeux de beaucoup de gens, à un moment ou à un autre de l'histoire, et en ce moment particulièrement, on le sent bien, l'autre est toujours considéré comme un point d'origine vers lequel on va se retourner pour trouver la source de tous nos problèmes, de toutes les questions insolubles, de tous nos malheurs. Pourquoi est-ce qu'on se retourne vers ce point-là qui est celui de l'autre? Et pourquoi est-ce qu'en conséquence, on veut construire un peu partout des murs, que ce soit dans les esprits ou en réalité sur la Terre, pour se prémunir des méfaits de l'autre? Alors, il y a plein de façons de répondre à ces questions. La psychanalyse a pu parler beaucoup de l'autre, etc. Mais j'aimerais bien vous proposer une autre approche aujourd'hui. C'est que si le rapport à l'autre est si difficile, si la relation à l'autre est si problématique, c'est peut-être finalement en raison même du concept d'autre, c'est-à-dire à la façon dont il est construit, à la façon dont il est structuré. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer d'oublier l'autre. D'oublier l'autre, évidemment, pour mieux penser les phénomènes relationnels, pour mieux penser les phénomènes qu'on est obligé d'appeler encore des phénomènes d'altérité. Alors, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on oublierait l'autre, hein? Parce que finalement, en plus du fait que ça nous apparaît comme une réalité évidente, il y a plein d'autres. L'autre, ça nous semble la notion la mieux formée pour finalement entrer en relation, envisager une relation. Que ça soit pour faire la guerre ou pour faire la paix, avec quoi d'autre que l'autre pourrait-on entrer en relation? Et en fait, l'autre, c'est intéressant parce que c'est un des concepts de la pensée occidentale qui est le moins questionné. Il semble tellement aller de soi qu'on ne l'a jamais questionné, on ne l'a jamais vraiment démonté. Voilà, on n'a jamais vraiment démonté la logique de fabrication de cet autre. puisque son utilité et sa définition semblent aller de soi. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, c'est le moins bon concept pour penser et rendre compte de ce qu'on appelle les phénomènes d'altérité, ou plus justement les phénomènes relationnels, les phénomènes de relation, les phénomènes de lien, de liaison, c'est-à-dire ce qui se passe entre. L'autre, ça ne permet pas de penser ce qui se passe entre. C'est-à-dire là où se passent les choses. Ça se passe toujours entre. Et si le concept d'autre rend impossible ou difficile la pensée de ce qui se passe entre, c'est-à-dire en gros la perception, l'acceptation, la fréquentation de la différence, pour le dire de façon très synthétique, c'est en raison des liens qui existent de façon native, de façon structurelle, entre le concept d'autre et ce qui est sans doute l'idée la plus centrale de la pensée occidentale, c'est-à-dire l'idée de séparation. Bon, ça me semble peut-être inutile, mais on ne sait jamais. Je précise que si je vous propose d'oublier l'autre, ce n'est pas par racisme, méchanceté, volonté d'anéantissement d'un groupe quelconque ou d'une parole de nature xénophobe. Cet autre qu'il faut oublier, c'est ni une personne ni un groupe humain, c'est un concept. Mais pour oublier l'autre et pour pouvoir le faire, avant de le faire, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Et pour ça, il faut le voir de façon un peu différente. Parce qu'il semble tellement aller de soi qu'il a engendré une perspective automatique sur lui, l'autre. Et au lieu de le regarder du coin de l'œil, d'un œil un peu torve, avec méfiance, on va essayer de le voir autrement. En fait, l'autre, on a l'impression qu'on sait ce que c'est. Or, c'est précisément parce qu'on ne sait pas ce que c'est que c'est l'autre, que c'est désigné comme l'autre. Comprendre enfin ce qu'est l'autre, ça suppose d'abandonner la perspective automatique, c'est-à-dire d'abandonner, vous savez, ces appels contemporains du rapport à l'autre ou du vivre ensemble, enfin toutes ces formulations qui sont employées dès qu'il est question de ça, de la relation, comme si ces formules avaient le moindre sens. En fait, c'est des sortes de mantras qui sont devenus complètement vides, c'est incantatoire et hypnotique, mais ça n'a jamais modifié le comportement d'un type armé d'une batte de baseball, le vivre ensemble. Donc, il s'agirait plutôt de déchiffrer ce qu'il est, c'est-à-dire s'attaquer à lui vraiment, l'autre, mais pas comme à un groupe, à un peuple, mais comme à un concept. Pour comprendre l'autre, il faut donc comprendre le concept qui sert à penser et à voir l'autre, et ça sera l'objet de cette communication. Évidemment, il y a l'autre comme personne, et puis il y a l'autre comme concept. L'autre comme personne, c'est une multiplicité de figures, figures de l'altérité. Il y a des modalités politiques de l'autre, il y a le marginal, il y a l'étranger, il y a l'immigré, il y a le migrant, il y a l'autre pays, il y a l'autre race, entre guillemets, il y a tout ce qu'on peut voir sous cette modalité politique. Il y a des modalités éthiques ou relationnelles, c'est autrui, comme on fait avec autrui, etc. Il y a les modalités sexuelles de l'autre, l'autre sexe, des modalités métaphysiques et religieuses, c'est la finitude, c'est la mort, c'est Dieu, tout ça, c'est des modalités de l'autre. Des modalités scientifiques, le réel, c'est l'autre, dans la pensée occidentale, le réel, c'est vraiment l'autre, ce face à quoi on est. Il y a même des modalités alimentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça, c'est de l'autre. Pourtant, même si le concept d'autre se manifeste toujours dans quelqu'un ou dans quelque chose, il n'a pas d'existence comme ça abstraite, l'autre ne peut pas être réduit, comme on le fait la plupart du temps, à ses formes qui l'ont incarné. Donc, pour comprendre ce qu'est l'autre, pour cesser de méconnaître son sens et sa fonction, il faut rompre avec cette optique culturelle. En gros, il faut désadhérer le concept de ses représentations et de ses manifestations. Il faut prendre la question, surtout sur un mode dépassionné, et comprendre la structure de l'autre. Et l'autre, comme toute chose, c'est une construction mentale. C'est-à-dire, l'autre, ça repose plus exactement sur une construction mentale. Il faut donc voir sur quel échafaudage conceptuel est fondée la notion d'autre. Donc ce moment-là où on va essayer de voir comment ça s'est construit, comment l'espace dans lequel il y a l'idée d'un autre s'est développé. En fait, le concept d'autre est intéressant parce qu'il fait surgir une dimension. L'autre, c'est une dimension. Dès qu'on emploie le concept d'autre, on fait surgir une dimension. L'autre a affaire avec ce qui est différent, ce qui est inversé, ce qui est ailleurs, ce qui est extérieur. Tout ça, c'est une dimension. Donc, si on veut synthétiser tous ces mots, différent, inversé, ailleurs, extérieur, on dirait que l'autre manifeste une seule et même chose, la séparation. L'autre, ça désigne, à travers toutes les occurrences dont j'ai parlé, un lieu spécifiquement disjoint. Ça désigne une zone dont on est coupé, qui est disjoint de celui qui emploie le concept d'autre. Le fait de pouvoir penser quelqu'un ou quelque chose comme autre est le résultat, autant que le signe ou le symptôme, d'une pensée de la division, une pensée basée sur l'idée initiale de la séparation. Alors, comment ça se construit, cette chose ? Ça se construit à partir d'une hypothèse qui est très ancienne, qui est une hypothèse sur la structure du réel, créée, inventée, pensée par un des grands architectes de la pensée occidentale, par Platon. Et cette hypothèse, c'est celle d'une séparabilité de principe des éléments du réel. Les éléments du réel seraient séparés par principe. Ce verre est séparé de cette table, qui est séparé de cette bouteille. Il y a une séparation. On appréhende le réel à travers cette idée de séparation. Cette séparabilité, elle repose elle-même sur une image du monde. C'est donc une pure croyance. C'est un échafaudage théorique construit par Platon, qui vient, donc l'idéalisme platonicien a construit ça. Le réel, c'est une somme d'entités séparables et séparées. Alors, ça, que ce soit des choses matérielles, des idées, des incorporelles, n'importe quoi, ça fait ici aucune différence. Le réel, c'est une somme d'entités séparables et séparées. Donc, c'est le résultat d'une vue de l'esprit, c'est un modèle du monde, et on a appris à le voir de cette manière. Comment est-ce qu'on a appris à le voir de cette manière ? Platon a imaginé qu'une essence, il y a une essence des choses, et c'est sa fameuse théorie des idées, on la connaît, sa théorie des idées. Pour chaque chose, il y a une idée qui la définit et qui la cerne. Dans ce monde des idées, alors il existe parmi une multiplicité d'idées, une infinité d'idées, qui sont toutes séparées les unes des autres. Il y a une idée du lit, une idée du cheval, une idée de la table, une idée de la radio, une idée de tout ce qu'on veut, mais aussi des idées du grand, du petit, du chaud, du froid. C'est comme ça que Platon construit son système. Il y a des idées, des choses matérielles, mais aussi des choses abstraites. Connaître, le processus de connaissance, donc c'est se détourner des choses matérielles pour appréhender le ciel des idées. Pourquoi ? Parce que les idées, c'est stable. Pour un grec, connaître, c'est appréhender des choses stables. Le monde réel, le monde concret est pris dans le devenir, dans la corruption. Tout change tout le temps, tout change en permanence, donc on ne pourrait élaborer aucune connaissance stable. Si on remonte au ciel des idées, où les choses sont stables, on peut connaître quelque chose. En tout cas, c'est la vie mise en place par Platon, et c'est en gros ce qui a structuré notre façon de voir le réel. Et pour ça, il a fait un truc absolument génial qu'on a appelé la clôture des déterminations. La clôture des déterminations, ça veut dire que chaque chose est close sur elle-même. Chaque chose est close sur son en-soi. Elle est close sur ce qui la définit. Alors ce truc-là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a d'autres systèmes de pensée comme la pensée chinoise, par exemple, où il n'y a aucune idée de l'essence des choses. Les choses sont juste le lieu d'interpénétration de forces plus ou moins antagonistes qui s'échangent, qui se transforment et qui deviennent quelque chose. Donc il n'y a pas d'essence des choses. Mais pour Platon, il y a une essence des choses. Et cette membrane de définition fait un travail qui est très utile pour penser ce qu'est l'autre, puisque cette membrane de définition sépare chaque chose de toutes les autres. Toute chose dispose d'une substance en raison de cette enveloppe. C'est ça la clôture des déterminations. Une membrane de définition séparée et séparante entoure chaque chose, l'isole, la clôt sur elle-même et la différencie des autres. C'est pour ça que l'on pense la vérité toujours à partir de l'intériorité des choses. Quand on pense à une chose, quand on est dans sa vérité, quand on est à l'intérieur de cette membrane de définition, quand on a passé la membrane de définition et qu'on est à l'intérieur de la chose, on est dans son essence, donc dans son lieu de vérité. En deçà de cette membrane, on est dans l'essence, et au-delà, on sort de l'essence et donc on n'est plus dans la vérité. La vérité, c'est toujours interne pour cette raison-là, pour nous. Donc ce modèle, il a connu un immense développement, puisque c'est toute la pensée et la culture occidentale, on le trouve dans la science, dans la philosophie, dans la connaissance en général, et même dans notre appréhension immédiate des choses. Ce modèle positionne donc chaque chose dans une distinction absolue avec tout le reste, et donc l'oppose à tout le reste. C'est là où on va venir progressivement sur la fonction de l'autre et sur les problèmes que pose l'autre. Puisque, par définition, ce modèle, chaque chose, chaque idée, chaque élément du réel est séparé, distingué, donc opposé à tous les autres, et c'est ça qui crée la dimension séparée qui est celle de l'autre. Parce que chaque idée est l'autre de toutes les autres. L'autre comme dimension séparée, l'autre comme espace rendu nécessaire par la séparation initiale dont Platon fait le principe du monde autant que le principe de compréhension du monde. C'est pour ça que pour définir l'autre, la formule la plus générale que j'ai pu trouver, c'est tout ce dont nous sommes séparés. L'autre, c'est tout ce dont nous sommes séparés. Et donc l'autre, c'est le séparé par essence, c'est le modèle du séparé. C'est à la fois, il incarne le séparé, mais il produit de la séparation. La construction élaborée par Platon donc, suppose, induit une transcendance séparée, c'est-à-dire le lieu de l'autre. Le lieu de l'autre, c'est toujours une transcendance séparée. Alors elle peut être religieuse, elle peut être raciale, elle peut être tout ce qu'on veut, c'est toujours une transcendance, c'est-à-dire un au-delà séparé. Donc parmi toutes les illusions qui ont entouré ce modèle, qui ont permis une pensée de l'autre, l'idée qu'il existe des substances individualisées, c'est-à-dire des isolats parfaits, des lieux de pureté, c'est une des choses les plus indécrottables de notre pensée. Alors, la psychanalyse a mis un gros choc dans cette idée qu'il y aurait des isolats parfaits, des sujets purs, etc. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Whitehead qui dit « Un fait singulier isolé est le mythe premier qu'exige une pensée finie, c'est-à-dire une pensée incapable d'embrasser la totalité. Ce caractère mythologique provient de ce qu'il n'existe pas de tel fait isolé. La connexité entre dans l'essence de toutes les choses. » Il est de l'essence même des choses qu'elles soient reliées. Faire abstraction de la connexité, c'est omettre un facteur essentiel du fait considéré. Aucun fait n'est purement et simplement lui-même. Et ça, c'est une phrase absolument magnifique, je trouve. Aucun fait n'est purement et simplement lui-même. C'est pourtant l'adhésion sans réserve à cette illusion qui a façonné notre culture. Donc, voilà. C'est l'autre, c'est la cristallisation la plus pure de cette illusion. Et c'est précisément cette illusion qui pose un problème à cette structure. Parce que le problème de cette structure, essentiellement, c'est celui des relations. Et derrière cette question des relations, c'est la question du commun. Puisqu'il s'agit de penser la relation entre deux ou plusieurs entités individuelles qui sont toutes verrouillées dans leur essence par la clôture des déterminations. Quand vous avez un modèle qui est constitué de choses qui sont closes sur elles-mêmes, comment peuvent-elles entrer en lien ? En rapport, comment peuvent-elles s'ouvrir un petit peu pour rendre compte du fait que dans le réel, il y a bien du mouvement, les choses changent, les choses évoluent. Comment même pouvoir penser l'idée d'un verre blanc, par exemple. Il faut bien que, du point de vue platonicien, le blanc et l'idée du blanc et l'idée du vert s'entrouvrent l'une pour l'autre, pour avoir un sens, pour fabriquer un sens, pour permettre même de le dire. Donc, comment on pourrait poser l'idée dans un tel modèle d'une cohabitation qui ne serait pas hostile par principe entre toutes ces réalités ? C'est la fermeture de principe de ce modèle rend l'idée d'un commun ou d'un espace commun ou même d'un espace de cohabitation très problématique. Et l'autre, donc, c'est la métastructure culturelle, enfin, le concept de l'autre, qui permet de comprendre pourquoi ce commun est si difficile. Si on essaye de voir comment notre civilisation a évolué, on se rend compte que, de plus en plus, on a eu besoin de faire appel à des passeurs entre toutes ces réalités, à des marieuses, à des ambassadeurs, à des intercesseurs, enfin, pour essayer de faire fonctionner ce modèle qui est un modèle qui est grippé presque au départ. Il est immobile, il est statifié. Cette fermeture de principe statifie les choses. Donc, pour le rendre un peu fluide, un peu fonctionnant, un peu rendant compte de la réalité, on a dû fabriquer des couches de prothèses de plus en plus importantes pour favoriser la relation. Et c'est là que, par exemple, on peut comprendre l'importance absolument phénoménale qu'a pris la sphère juridique dans la société contemporaine. Enfin, on sait que si on voit aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas le moindre fait social qui pourrait se faire sans un avocat, sans un contrat, etc. La sphère juridique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui permet de fluidifier ces relations, de les rendre possibles, de les rendre existantes. Et donc, c'est longtemps ce qu'on a appelé la civilisation, ce truc-là. Or, en fait, de civilisation, c'est juste une difficulté relationnelle de l'ontologie métaphysique des substances qui est au travail. On appelle ça la civilisation, mais c'est en fait un raffinement qui est exigé par la gestion de plus en plus complexe, donc de plus en plus difficile, d'un impossible de principe. Et c'est avec ça qu'on se débat aujourd'hui. C'est avec ça qu'on se débat d'une manière très très importante. Sur les conséquences de ce modèle qui, au départ, donne des résultats de connaissances absolument vertigineux, mais qui a supposé la fabrication de prothèses de plus en plus corpulentes. Et une des prothèses les plus corpulentes qu'on ait aujourd'hui, c'est évidemment toute la technologie numérique. Aujourd'hui, tous les secteurs de la relation sont pris en charge par le numérique et sont technologisés, automatisés, que ce soit la gestion des relations amoureuses avec les sites de rencontres, jusqu'aux systèmes de surveillance, hein, qui sont les plus simples avec la vidéosurveillance, aux plus sophistiqués avec les trucs qu'a décrit et révélé Snowden. Ce qui s'installe dans ce système, c'est que c'est une jouissance des appareils destinés à produire de la relation plutôt qu'une jouissance de la relation elle-même. On jouit de Facebook plus que de ce que Facebook permet. On jouit davantage du réseau en tant qu'appareil que des relations qu'il autorise. Le like, c'est l'outil, le like, le truc de Facebook qui fait un pouce levé, c'est l'outil de cette jouissance de type mécaniste, puisque c'est un signe dont le but est d'alimenter un réseau, un lien qui ne renvoie qu'à un lien, qui ne renvoie qu'à un lien, qui ne renvoie qu'à un lien, comme ça, dans une espèce de puits infini. Un réseau social, donc, ne produit pas de la relation, il gère son impossibilité. Il n'y a rien de moins social qu'un réseau social. C'est une appellation parfaitement impropre. Et donc, de ce point de vue, Facebook et les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, ne sont pas la pointe avancée d'une sorte d'ultra-modernité, mais une sorte de sursaut réactif de la logique de l'autre. L'autre, on le rebaptise ami. Là, il est devenu ami. Mais c'est voilà, une ultime reconfiguration du platonisme pour tenter de sauver le lien dans un univers globalement hostile à la relation. Et c'est une tentative qui a connu jusqu'ici échec sur échec. Facebook est ce qui démontre de façon criante la difficulté de l'ontologie de la clôture et de la séparation à générer de la relation et du commun. Le commun tel qu'il se présente est un agrégat de substances fermées sur elles-mêmes, une somme de territoires privés, hostiles par principe les uns aux autres, c'est un commun qui est finalement bien peu commun. Dans cette ontologie, la relation, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas se faire. Il y a une formule de Lacan qui est comme ça dans cette double négation, je ne me souviens plus laquelle elle est, mais là, en tout cas, la relation, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas se faire. Et on voit bien que ce modèle n'est pas le plus à même de produire une fluidité de relation, puisqu'on a une Bastille qui tente d'entrer en relation avec une autre Bastille. On a des forteresses qui essayent de communiquer. Donc on retrouve tout de suite le mur d'enceinte de l'une et de l'autre, même si de temps en temps, on envoie des ambassadeurs. Et donc, c'est des relations intermittentes, c'est des relations forcées, c'est des relations qui sont rendues nécessaires, mais pas qui sont rendu possible par le principe du système. Et c'est ce qui donne à notre structure ce côté un peu bancal, un peu shadok, un peu brinque-ballant. Donc on voit un peu mieux comment l'autre, c'est un mauvais concept pour penser les termes relationnels. Mais à ce stade, ce qui apparaît, c'est que l'intérêt que présente le concept d'autre, c'est moins dans ce qu'il est, c'est la façon traditionnelle d'aborder la question, qu'est-ce que c'est que l'autre, comment faire avec lui, etc., que là où il se tient, que c'est, l'intérêt de l'autre, c'est la place symbolique et imaginaire qu'il occupe. Donc l'autre, avant tout, c'est une localisation, c'est un topos, c'est un distributeur d'espace, c'est un séparateur. Donc l'autre, c'est une figure logique, c'est une fonction exigée par la séparabilité des substances. Et on comprend mieux la situation si on regarde l'autre de cette façon, comme lieu séparé, comme lieu du séparé, comme lieu qui donne corps à la séparation ontologique. Donc, ce qui est amusant, c'est que l'autre, ça relève bien plus de la topographie que de la morale. En général, on aborde la question de l'autre à travers la morale, on n'y comprend rien pour cette raison. C'est topographique. L'autre, c'est le lieu de tout ce qui matérialise ou incarne l'extériorité de chaque essence. Cet ailleurs séparé, structurellement dissocié, fait série. C'est là que se tiennent par définition le disjoint, l'étranger, le différent, le dissemblable, l'inversé, l'exogène, l'hétérogène. On pourrait en mettre comme ça un énorme paquet. Si c'est un objet de croyance, hein, puisque la croyance qu'il existe pour quelqu'un, une ou des entités dont il est ontologiquement séparé, c'est parfaitement logique que l'autre, et la grande question qui l'enveloppe, se positionne aujourd'hui au premier plan dans une époque d'intense affirmation d'appartenance religieuse et de fanatisme de tous bords. Parce que le fanatisme est lié à l'idée de séparation, c'est même sa forme extrême, et le concept d'autre est indissociable d'une pensée de la pureté. C'est là où on peut commencer à comprendre comment il y a un lien entre l'autre, l'ontologie platonicienne, la fermeture des essences et la question politique de la pureté. Si on regarde l'essence, elle n'a qu'un but. L'essence veut perdurer dans son être, c'est-à-dire faire que l'intériorité de la détermination qui la fonde soit protégée de toute relation avec les autres. Puisque toute relation avec les autres est assimilée par principe à la possibilité d'une altération, puisque tous les autres sont assimilés de façon structurelle à des agents possiblement corrupteurs. Donc, dans le principe même de ce modèle, il y a une attitude paranoïaque par rapport à l'altérité, puisque chaque essence embastillée derrière sa membrane de définition court par principe le risque d'être corrompue dans sa pureté, dans sa possibilité d'être définie. Et ce risque, évidemment, vient des autres essences, de l'ensemble de toutes les autres essences, qui elles-mêmes, chacune, courent un risque identique, c'est-à-dire voir leur essence corrompue par la dimension de l'autre. Si les essences ne sont pas protégées contre les autres essences, donc protégées contre la dimension de l'autre, tout n'est plus qu'un ensemble de mixtes, c'est-à-dire un ensemble mélangé où plus aucune essence, plus aucune pureté n'est pensable, métissé, créolisé, tout y deviendrait indéfinissable, et c'est l'horreur absolue pour Platon. Et pour ceux qui s'en recommandent sans trop savoir même qu'il existe, mais tous ceux qui ont une pensée de la pureté. On voit bien alors comment l'autre, cette dimension séparée, est structurellement associée à un risque de corruption de l'essence. En tant qu'il incarne l'au-delà de l'essence, il présentifie par son existence même un risque de corruption de l'essence. Et l'extrême non pondéré de cette logique, c'est-à-dire la pensée raciste, envisage toujours l'autre sous les traits de ce qui vient flouter les contours de la définition. La définition, ça se veut stricte, ça ne peut pas être amolli, ça ne peut pas être perverti, ça ne peut pas être corrodé. Cette membrane de définition, cette membrane de la pureté, ne peut pas être corrodée du point de vue de ceux qui pensent qu'il y a une pureté possible. La logique de la pureté, c'est-à-dire celle d'imaginer résider dans un en-soi défini et garanti par une frontière, quelle qu'elle soit, c'est forcément une option qui ouvre à la défense paranoïaque de son territoire. La pureté de l'en-soi, c'est au fond ce qui fait que l'autre a toujours constitué le problème le plus inextricable de la pensée métaphysique de la substance, puisque c'est l'essence antagoniste de toutes les autres. Et cette idée de pureté, elle est captive de quelque chose par sa propre logique. Elle est captive d'une exigence qui est qu'elle est obligée de matérialiser un autre qui la met en danger. C'est elle-même qui produit ça. Elle est obligée de produire un autre qui la met en danger. C'est un halogène qui lui permet d'espérer maintenir sa pureté dans le combat perdu d'avance qu'elle mène contre lui. C'est pour ça que l'autre, ça incarne pour la pensée raciste, l'insupportable, parce qu'il matérialise la nécessité de la relation pour un système qui n'en veut pas. L'autre vient donner corps à l'obligation qu'ont les substances de s'adonner malgré tout à la relation, de s'ouvrir dans et par elle, et l'autre vient forcer cet accès. Et du point de vue des tenants de la pureté, cette chose-là, cette entrouverture, je ne sais pas comment on peut la nommer, c'est déjà trop. Du point de vue de l'ontologie positionnelle, tout ce qui peut être placé sous le concept d'autre est de façon inévitable un corrupteur d'essence. Et donc pas étonnant que chaque pensée qui renforce la dimension de l'essence ou celle de l'identité, hein, toutes les pensées identitaires qui fleurissent aujourd'hui, soit plus ou moins xénophobe. C'est obligatoire. On voit bien que l'autre n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être perçu comme un danger. C'est son existence même, c'est-à-dire la place imaginaire qu'il occupe, qui en fait le point de mire privilégié et donc le bouc émissaire idéal pour tout un pan de la pensée, notamment politique. Et tous les discours qui sont présentés comme nécessaires sur la régulation de l'immigration ou sur le refus d'accueillir les migrants ne sont que des enrobages plus ou moins techniques, plus ou moins humanistes, plus ou moins hypocrite de cette vérité de structure qui est indissociable de la conception du réel comme somme d'entités séparées et séparables. L'autre est a priori un corrupteur d'essence. Et c'est une spirale infernale, parce que dans cette approche, aucune pureté n'est jamais assez pure. Bien sûr, il y a toujours un ver dans le fruit pour la pureté. C'est pour ça que toute révolution court finalement le risque de finir dans l'épuration. Voilà. Une pureté pure, il y en a toujours une plus pure. L'autre vient altérer, c'est-à-dire faire devenir autre. C'est pour ça qu'il apparaît comme l'étranger et non pas comme des étrangers. La catégorie empêche de voir la réalité des corps, les histoires singulières, les besoins, la détresse, le « on est chez nous » du Front National, enfin du Rassemblement National, ne dit rien d'autre que « ne viens pas altérer mon essence ». Et il y a un truc qui m'a frappé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait prévu à Paris d'ouvrir un centre d'hébergement pour SDF en bordure du Bois de Boulogne, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Quartier très bourgeois, très riche, très opulent. Voilà. Et des habitants de ce quartier, donc des gens très aisés, etc., sont allés mettre le feu à ce truc-là, alors qu'il n'était pas encore fini, pas encore ouvert, etc. Et c'est absolument hallucinant de voir ça. C'est-à-dire que ces gens sont finalement des combattants de l'essence, c'est-à-dire il y aurait une pureté à maintenir, une pureté à sauver, une pureté à sauvegarder. Et on peut dire, en prenant un langage d'aujourd'hui, que ces gens, c'est des platoniciens radicalisés. Et il ne faudrait pas croire que cette logique de la pureté concerne uniquement les pensées explicitement racistes, identitaires ou d'extrême droite. Elle touche aussi bien les pensées progressistes dès lors qu'elles s'appuient sur l'idée d'autre. Pour les réactionnaires, l'autre est a priori malfaisant, mais pour les pensées de gauche, l'autre est a priori bienfaisant. L'opprimé est bon par définition. Hein, l'opprimé, on le pense spontanément quand on est de gauche, ben voilà, c'est le marxisme, enfin tout ça. L'opprimé est bon par définition. Et c'est structurellement la même erreur, même si évidemment les premiers sont moins sympathiques que les seconds. Mais au fond, c'est la même impasse. C'est la même impasse qui ne permet pas de penser ce que c'est que cette différence. La conséquence principale de l'usage du concept d'autre, c'est que progressistes et réactionnaires, révolutionnaires de gauche ou identitaires d'extrême droite, se retrouvent finalement dans une sorte de camp commun. Les réactionnaires, car ils ont vitalement besoin, car ils sont dépendants de l'autre pour exister. Les progressistes, parce qu'ils reconduisent et perpétuent la logique de l'exclusion et de la pureté qu'ils pensent combattre. Il s'agit dans les deux cas de penser à partir d'une division initiale, fondatrice, et depuis elle. Il faut donc réaliser que l'utilisation d'un concept comme celui d'autre, que ce soit pour l'encenser ou pour le combattre, est ce qui rend impossible de saisir ce qu'on pense désigner dans l'expression le rapport à l'autre. Là où il y a de l'autre, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire on ne peut pas penser ce qu'il y a entre à partir du concept d'autre. La logique claustrophobique et altérophobe de l'essence l'interdit ou l'empêche. Si la haine de l'autre, déversée à longueur de marketing politique ou de discours identitaire et sans ambiguïté sur la lutte contre l'idée de relation, même lorsqu'on parle d'accueil de l'autre, hein, par exemple d'un migrant ou d'un SDF, on renforce un système hostile à la possibilité des relations. Même ceux qui veulent accueillir l'autre sont bien sûr, si ceux qui veulent accueillir l'autre sont bien sûr infiniment plus sympathiques, moralement et politiquement que ceux qui veulent sa peau. Toute utilisation, même bienveillante, du concept d'autre fait le lit de l'en-soi et suppose un mur d'enceinte plus ou moins grillagé, au-delà duquel il faut aller chercher la relation. Accueillir réellement tous ces autres réels, les migrants, les réfugiés, bientôt en masse les réfugiés climatiques, suppose de se déprendre du concept d'autre et du système du monde qui va avec, c'est-à-dire celui de la privatisation de l'en-soi. Accueillir réellement tous ces autres réels suppose de se déprendre de l'idée de la séparation ontologique. Alors, cette séparation, c'est une vision culturelle, même si elle est très ancrée dans notre histoire, rien n'interdit de lui substituer une autre vision du réel, une vision d'un réel inséparé.
Voilà. Merci. J'enchaîne. Donc cet autre qui, tu l'as bien dit, n'est ni strictement une figure, mais qui est avant tout une fonction, et puis qui est aussi un lieu, le lieu de l'autre, ce lieu duquel on est séparé. Et donc penser ce monde de l'inséparation, ce monde sans autre, donc c'est pas un monde sans autrui, tu l'as bien dit, ce n'est pas un monde de pure solitude, c'est au contraire un monde où se cultivent d'autres relations, où se cultivent des relations, se cultivent des entres. Et puisqu'on est ici au théâtre, une des questions qu'on se posait, en tout cas nous cet après-midi, c'était de se dire, le théâtre, par définition, c'est un de ces lieux de la séparation. Il y a l'espace des spectateurs, il y a l'espace, en tout cas, de ceux qui regardent et ceux qui sont regardés. Et cette clôture, cette séparation entre une scène et une salle vient rejouer culturellement cette séparation. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que pourrait être finalement un théâtre de la séparation si on essaye de matérialiser, si on essaye de donner une image de ce que pourrait être ce monde sans autre, et puisqu'on est ici au théâtre, comment le théâtre pourrait matérialiser cette chose-là. Et je parle du théâtre aussi parce que dans tes ouvrages, c'est une métaphore qui revient assez souvent, c'est une métaphore de la scène. Et dans ton dernier livre, L'autre anatomie d'une passion, tu prends même l'exemple du théâtre de marionnettes. Ton ouvrage est introduit par ce commentaire d'une scène de Being John Malkovich qu'on peut regarder, qui dure que 2 minutes et qui permettra peut-être de penser avec le théâtre, à partir du théâtre aussi, ce que peut être ce réel inséparé, dont la marionnette à fil qu'on va voir juste après est peut-être une des, peut-être pas la meilleure des figurations, mais en tout cas une des matérialisations possibles de ce que c'est que cet inséparé.
Oui, alors c'est une scène qui est intéressante parce que c'est un personnage qui est chez lui. Il regarde, il cherche à savoir qui il est. Il se regarde dans une glace, il cherche son reflet dans un miroir. Il ne sait pas à partir du reflet ce qu'il pourrait être. Ça le rend un peu fou. Il casse le miroir, il casse tout chez lui et il se rend compte que des fils sortent de ses membres et donc vont vers le haut. Donc il regarde vers ce haut et ce qu'il découvre à ce moment-là, c'est que il est le pantin d'un marionnettiste qui anime son mouvement. Mais ce qui est absolument extraordinaire dans cette scène, c'est que le marionnettiste est le sosie. Alors on ne sait pas si c'est le modèle, si c'est le sosie, si c'est le double du pantin. Ils sont strictement identiques. Et le film va développer cette idée d'un rapport compliqué à l'autre. Mais en tout cas, ce qu'on se disait, c'était que, en préparant cette intervention, c'était que, au bout du compte, l'espace classique le plus strict, qui est celui de la scène et de la salle, était peut-être le lieu où il fallait chercher, non pas le fait de ce dont on devrait se déprendre pour arriver à penser autrement les liens de l'inséparation, mais au contraire, au cœur même de cet espace, on pouvait trouver des modèles d'inséparation. Et il me semble que cette matérialisation des fils représente quelque chose qui peut dire quelque chose sur l'inséparation. Et ça, en revoyant la scène, ça m'a fait penser à cette chose qui est apparue dans l'actualité scientifique ces dernières semaines, où on s'est rendu compte que entre les galaxies, il y avait des fils d'hydrogène qui se déroulent sur des centaines de milliers d'années-lumière, des millions d'années-lumière. Donc des fils qui relient, et que cette histoire du fil, elle est finalement un bon outil pour commencer à rentrer dans les problématiques d'inséparation, peut-être même au cœur même de l'espace classique qui est celui du théâtre tel qu'il se présente normalement, classiquement, c'est-à-dire une séparation entre la scène et la salle. Là, il se trouve que la séparation, elle n'est pas horizontale, elle est verticale, et que ce basculement d'un quart de tour sur du dispositif entier est peut-être ce qui permet d'ouvrir un autre point de vue sur ce qui se représente, sur la façon d'envisager ce qu'est un spectacle, ce que c'est un corps, ce que c'est un bord, enfin l'ensemble des problématiques qui sont au travail dans ce que vous essayez de faire ici, je crois. Mais voilà, le fil vertical, quand celui qui manipule est celui qui est ce qui est manipulé ou ce qui est manipulé, ou bien celui qui est en bas et qui manipule celui qui croit manipuler, on ne sait pas. C'est peut-être un petit modèle pour essayer d'élaborer quelque chose de plus complexe, mais pour penser ce que pourrait être éventuellement un théâtre de l'inséparation.
Merci.
Merci à vous.
Si vous avez désormais des questions à adresser à Dominique.
Ou des réponses, hein, vous avez des réponses, moi je suis preneur aussi.
Sur ce que pourrait être ce théâtre de l'inséparation.
Au-delà de l'image de ce fil, d'abord, est-ce qu'on doit le prendre comme une métaphore de la séparation ou comme une mise en pratique de la séparation ?
De la séparation ?
De l'inséparation.
Il me semble qu'on peut, en tout cas, rien n'interdit de partir d'une hypothèse et de voir ce qu'elle produit comme effet. J'ai l'impression que ce qui essaye de se penser dans ce lieu, enfin de ce que j'en ai compris, parce que on a discuté un petit peu avec Renaud, avec l'équipe, etc., pour savoir ce qu'on essaye de faire ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très salutaire pour penser ce qu'est un spectacle, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça dit de la façon dont on pense être fini. Enfin, corps, objet, image sont trois concepts qui tous touchent à la question du bord. Est-ce qu'il y a un bord des corps ? Est-ce que nos corps se finissent là où on a l'impression qu'ils finissent ? Est-ce que notre peau est une pellicule qui clôt notre corps. Est-ce qu'il s'arrête là? On sait bien que non, c'est un échangeur, etc. L'image, c'est pareil. L'image, tout à l'heure en parlant, ça m'a fait revenir un souvenir d'enfance où je regardais dans le quotidien de Lyon, dont je suis originaire, quand j'habitais quand j'étais enfant, il y avait une bande dessinée tous les jours, et je regardais, il y avait des bandes dessinées, il y avait Superman. J'étais fasciné par Superman. Alors je regardais les images de Superman, et plus je m'approchais de l'image, plus je me rendais compte que l'image disparaissait. Je n'apparaissais que les points de l'impression. Et donc, que le flou de l'image était finalement... que le fait que l'image ait un bord était une pure convention de mes sens ou une convention culturelle. Mais en tout cas, voilà. Donc la question des bords, aussi dans l'image, elle est posée. Et quant à l'objet, c'est pareil. Où se termine un objet ? On serait bien incapable de le dire si on ne définit pas l'échelle à laquelle on l'appréhende. Un objet, si vous l'appréhendez tel qu'on l'appréhende ici, cette table, elle a évidemment des bords, ils sont matériels, ils sont concrets. Dès qu'on rentre plus précisément dans ce qu'est cette matière, c'est une surface complètement indécidable qui est en échange d'atomes en permanence avec le reste, etc. Donc là, voilà, par exemple, il me semble que la question des bords, qui est une question essentielle pour savoir dans quel type d'espace politique on se situe. Est-ce qu'on se situe dans ce système que j'ai essayé de décrire un peu trop rapidement de choses qui sont closes sur elles-mêmes et donc incapables d'entrer en relation? Ou bien est-ce que les bords sont plus poreux, plus ouverts, plus amollis, pas comme la pensée de la pureté pense que l'autre vient amollir les bords, mais là, dans une pensée déclôturée, ce qui ne veut pas dire que c'est une vision optimiste où tout serait super parce que ça serait déclôturé. Il peut y avoir des pires choses dans ce modèle, peut-être bien pire que ce qui s'est passé précédemment. Mais en tout cas, ça ouvre des potentialités de fabrication d'un commun de principes qui en tout cas était rendu impossible par le modèle précédent. Et c'est en ça qu'il y a une ontologie de l'inséparation qui est à penser dans les usages qu'on peut faire de ce nouvel espace existentiel dans lequel on est en train d'entrer, avec quelque chose qui est à la fois... Une résolution des impossibles de principe du système précédent et une ouverture à un ensemble de possibilités dont certaines sont absolument atroces. Et donc, voilà, on est face à cette situation qui est l'ambivalence intégrale des possibilités de ce nouveau système. Le capitalisme en est un, la destruction du système écologique en est une autre. Enfin, les monstruosités qui sont liées à cette déclôturation ne manquent pas. Mais des potentialités, des choses qui sont extrêmement positives dans le lien qu'on entretient les uns avec les autres, les systèmes de réseaux, il y en aurait plein, mais sont ouvertes aussi.
Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des scientifiques qui étudient cet inséparé ?
C'est une des bases de la physique contemporaine. C'est même souvent on prend des modèles scientifiques. On parle souvent de mécanique quantique, etc. Ouais. Mais il y a effectivement une inséparabilité des particules à un niveau subatomique qui est absolument devenue évidente aujourd'hui. Enfin depuis très longtemps, depuis les années 20. Donc c'est vraiment une banalité aujourd'hui en physique de parler d'une inséparabilité des phénomènes, aussi. Alors, par rapport à la question du regard, si on transpose la question du spectacle dans un champ scientifique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, cette inséparabilité? Ça veut dire qu'aucun phénomène observé est indépendant du fait du système qui permet de l'observer. Et donc, il y a une interférence généralisée. Donc, bien sûr, il y a des scientifiques qui travaillent sur ces notions.
Et si vous aviez à nous proposer une pratique pour être attentif à cet inséparé, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour être attentif à cet inséparé ?
C'est une histoire de conditionnement de la perception. C'est-à-dire quand j'écrivais ce livre qui s'appelle L'inséparé, par exemple, je suis rentré j'ai essayé de décrire un plan d'inséparation. Donc comme si les choses n'étaient pas séparées les unes des autres, mais n'étaient que des modes de plissement d'un plan. Donc les choses seraient des modes de plissement d'un plan, nos corps seraient des modes de plissement d'un plan, et le mouvement serait des modes de déformation de ces plissements. Et donc pendant tout un temps, je me suis baladé dans les rues avec cette impression-là. Et c'est des moments où vous frôlez l'impression d'être un peu dingue, parce que tout d'un coup, vous voyez les choses vraiment autrement. Vous sentez les choses autrement. C'est-à-dire que quand vous ne bougez pas dans un espace, il n'y a pas un grand espace contenant comme une espèce de truc ouvert dans lequel, à l'intérieur duquel vous vous déplacez. Il y a un ensemble inséparé dont tout est une forme de modification de plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extériorité à votre corps. Il n'y a pas d'extériorité aux autres corps. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mélange ou qu'il y a une confusion. Mais, en tout cas, vous pensez tout type de mouvement autrement. Alors ça, par exemple, c'est un exercice qu'on peut essayer de faire de temps en temps. Se dire, tiens, si je pensais mon mouvement comme, non pas moi comme corps séparé qui évolue de façon libre dans un espace contenant, mais comme un mode de plissement du plan d'inséparation, ça produit des effets bizarres. Voilà. Et je ne sais pas si... un danseur, par exemple, pourrait pas faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est parce que le fait d'être en l'air, par exemple, l'élévation du danseur, c'est pas parce qu'on quitte le sol qu'on est séparé du sol. Je veux dire qu'à chaque fois, il s'agit d'un c'est comme se fabriquer un nouvel espace existentiel. Voilà, un nouvel espace dont on est copartenaire. Et pas une espèce de grande boîte vide qu'on vient occuper parce qu'on entre dedans.
Si, un petit cas pratique. Si je suis dans l'inséparation, quid de la relation ?
La relation, c'est une modalité de l'inséparation. Elle n'est pas donnée par, elle n'est pas donnée par principe. Ce qui est donné par principe, c'est la possibilité d'un commun. Après, il faut fabriquer des usages, il faut fabriquer des règles, il faut fabriquer... Comment, par exemple, un des exemples que j'ai pris dans l'inséparé, c'est par exemple, quand vous avez l'impression qu'il y a une inséparation, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus d'idée d'intérieur ou d'extérieur, comment est-ce que vous caractérisez, du point de vue du droit, l'effraction ? Quelqu'un rentre chez vous, casse la porte et pique tout ce qu'il y a à piquer. Comment vous caractérisez ça ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de délit. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas volé des choses. Mais comment vous caractérisez le fait que quelqu'un est entré d'un extérieur dans un intérieur qui était privatisé ? Mais si vous pensez un système inséparé, il n'y a pas d'extérieur ou d'intérieur. Donc, à quel moment exact la limite a été franchie ? Le seuil a-t-il été franchi ? Il n'y a pas de seuil. Voilà. Donc, ça oblige à caractériser autrement, c'est-à-dire à fabriquer des nouveaux usages. Et on voit bien qu'on va tous être obligés de le faire, de toute façon.
Mais quel serait l'exemple d'un nouvel usage ? C'est ça ma question.
Ça, il faut les travailler. On y travaille, on essaye de... par exemple, le fait de prendre votre voiture, si vous en avez une, ou votre véhicule, et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, il y a un nouvel usage. C'est-à-dire, vous pensez que ce geste-là a un impact avec l'écosystème global, l'écosystème complet. C'est un nouvel usage, c'est-à-dire vous y pensez, vous êtes obligé de faire avec. Comment vous triez vos déchets, comment l'air que vous respirez, enfin, tout ça, ce sont des nouveaux usages, on est bien obligé de les... Alors, il faut qu'ils se mettent en place, parce que pour l'instant, ils sont plutôt des façons réactives de s'adapter à une nouvelle situation qui semble une dégradation de la situation précédente. Mais ce n'est pas une dégradation de la situation précédente, c'est un nouvel espace. Et ce nouvel espace, il est pour l'instant... extrêmement vierge et encore, il demande à être nommé, cerné, habité surtout. Comment est-ce qu'on va l'habiter, cet espace ?
Et par exemple, si là aussi, c'est à la fois une boutade ou pas, si, la partenaire qui est à votre droite, oui. Si vous lui proposiez « vivons en inséparé oui. », qu'est-ce que ça signifierait ?
Ben, ça signifierait que si je la touche, je ne touche pas un corps qui serait une réalité existant dans un espace différent de l'espace dans lequel je suis. On ne serait pas dans un espace. On serait des modalités de l'espace. On serait nous-mêmes des modalités de l'espace, des modalités qui se rencontrent, qui peuvent se disputer sur ce qu'il y a dans le réfrigérateur ou sur le fait que l'un n'a pas fait la vaisselle ou l'autre. Bien sûr, ce n'est pas le problème, mais ça serait un mode relationnel qui passerait par d'autres biais que entrer dans un appartement où est quelqu'un et puis retrouver votre compagnon, votre compagne, votre fiancé, etc. C'est, voilà, l'espace, il est continu et ce sont des modes de déformation.
Mais est-ce qu'on doit en tirer la conséquence d'une abolition de l'identité ?
C'est-à-dire qu'on doit en tout cas penser que le système de l'identité est un système de restriction. Or, le système de l'identité, c'est un système idiot. Il n'y a pas d'identité, il n'y a que des appartenances. Il y a une somme d'appartenances. Une carte d'identité, par exemple, il n'y a rien de plus idiot que la carte d'identité. Qu'est-ce qu'il y a sur une carte d'identité ? Il y a « j'appartiens à ce groupe-là, les Français, au groupe de hommes, au groupe de gens de telle taille, au groupe des gens de telle couleur d'yeux, etc. » C'est une somme d'appartenances. L'identité, ça n'a aucun sens. C'est donc une somme d'appartenances qui fait qu'on se dit « tiens, ça, c'est mon identité ». Mais on n'a pas d'identité.
Oui, mais si dans un transport en commun... votre main s'égare sur le corps d'un voisin et vous lui expliquez que, au fond, nous sommes inséparés,
oui.
Il va avoir comme du mal à le comprendre,
oui,
ou à l'accepter.
Il va me mettre son poing dans la figure en me disant qu'il est inséparé. Vous savez, ça, ce que je veux dire, c'est que ça n'abolit pas le mal ou le délit. Dire inséparé, ça ne veut pas dire c'est une grande fusion mystique. Parce que c'est un des premiers trucs, c'est une des premières impasses de cette pensée, c'est de se dire, tiens, puisque tout est séparé, tout est pareil, tout est beau, il y a une espèce de sentiment océanique dans lequel on serait pris. Pas du tout. Il y a au contraire, il y a une polarisation des différences, enfin, une matérialisation bien plus forte des différences qui est capable de se faire dans un tel système. Parce que le système d'avant, malgré tous ses défauts, avait la qualité de limiter les choses à leur essence, justement. Une fois que l'essence est déclôturée, l'explosion, elle est possible dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que beaucoup de choses qui se créent aujourd'hui se créent sur le mode de l'hybridation. Il y a eu, par exemple, dans les 20 dernières années, une explosion des nouveaux sports. On voit des trucs qui semblaient des aberrations. Vous voyez des chars à voile sur des planches à roulettes sur les plages. C'est que des hybridations ou un parachute ascensionnel, par exemple. C'est un truc complètement dément, un parachute ascensionnel. Vous êtes là avec un parachute et vous montez. Bon, c'est que des hybridations. Et ça a à voir avec la déclôturation des essences. Parce qu'avant, un parachute ne pouvait pas être ascensionnel.